Parole d'écriture, émission animée par Michel Bernard. Chers auditeurs, bonjour. Une récente enquête indique que les Français considèrent à plus de 90% que les médias ne parlent pas assez de ce qui va bien, de ce qui va vers l'espoir. C'est pourquoi ce soir, parmi tous les auteurs et combien ils sont nombreux, qui nous invitent à être positifs et aller vers l'espoir, mais nous finirions par les oublier, nous avons choisi trois voix, VOIX, et trois voix, VOIES. Il s'agit d'Henri Laborie, un des plus grands savants du XXe siècle, qu'on finirait par oublier. Le second sera François Chesne, cet académicien venu de l'Orient. Et le troisième, dans la seconde partie, sera Azouk Begag, un chercheur qui se cherche en cherchant avec un itinéraire personnel tout à fait passionnant. Mais je vous invite à commencer par écouter notre premier invité, Henri Laborie.
Fuite. Oui, la fuite, oui. La majorité des gens considèrent que la fuite est quelque chose de répréhensible. Hein, c'est
oui, quand
la lâcheté.
Quand vous dites c'est ça l'éloge de la fuite, on dit mais ce qui fait l'éloge de la lâcheté, justement.
Voilà. Non, c'est parce qu'il y a dans ce mot tout un contexte affectif qui vient de la socioculture. Je commence par dire, par exemple, que c'est la seule attitude pour un voilier devant le danger d'une mer démontée.
Oui.
À ce moment-là, c'est le seul moyen, et c'est pas lâche de fuir devant la tempête.
C'est s'adapter à certaines lois.
Exactement. Alors, chaque homme a une expérience des mots, et c'est ce qui rend les mots dangereux.
Pour vous, la fuite, par exemple, pour continuer avec ce même mot, c'est la créativité qui est là.
Bien sûr, parce que quand on ne peut plus agir, il faut bien imaginer les moyens de s'en sortir.
Et c'est en imaginant que l'on devient de plus en plus homme.
Et bien sûr, c'est la seule particularité du cerveau humain, c'est de pouvoir créer de l'imaginaire, c'est-à-dire créer de l'information, ce qu'aucune espèce animale ne peut faire. Il a un cerveau qui est fait de telle façon qu'il a des systèmes, ce qu'on appelle des systèmes associatifs, qui permettent à partir de l'expérience mémorisée, de la mémoire, de mélanger ces expériences de telle façon qu'il en naît ce qu'on peut appeler de nouvelles structures.
Quelque chose de neuf,
voilà.
Des idées neuves.
Voilà, la solution nouvelle à un problème ancien. Alors, évidemment, c'est une fuite devant la barrière infranchissable de tout ce qu'est la vie sociale et la vie... Et c'est la découverte d'un nouveau monde, c'est en ça qu'il y a une fuite. Et cette découverte, malheureusement, bien souvent, elle est facilitée par la drogue, par exemple, les drogues illicites.
Oui.
Elle est facilitée par la psychose, c'est une fuite de psychose, ou par la guerre.
Notre choix est fait. Cette finalité ne peut être que la connaissance, moyen de plus efficace à assurer la survie de l'espèce. La société post-industrielle, la société de connaissance opposée à celle de consommation, la société scientifique pour tout dire, sera d'abord une société des sciences biologiques, où elle ne sera pas. L'homme doit dès maintenant tourner son regard curieux, non plus seulement vers son environnement, mais sur lui-même. Tout se passe comme si l'homme avait peur de lui-même et s'il n'osait exprimer ouvertement ce qu'il sait être. L'effort est la base essentielle de la création. Mais faut-il encore l'organiser, l'ordonner, le rendre conscient? Les dominants ont toujours utilisé l'imaginaire des dominés à leur profit. Beaucoup d'entre nous mourront ainsi, sans jamais être nés à leur humanité, ayant confiné leur système associatif à l'innovation marchande, en couvrant de mots la nudité simpliste de leur inconscient dominateur. L'homme est un être de désir. Le travail ne peut qu'assouvir des besoins. Rares sont les privilégiés qui réussissent à satisfaire les seconds en répondant aux premiers. Il apparaît en définitive que très peu d'hommes aujourd'hui, après des milliers d'années d'évolution humaine, sont capables d'utiliser ces zones corticales privilégiées. Ainsi, peut-on dire qu'ils vieillissent avant même d'être nés à leur humanité? En d'autres termes, ne sont-ils pas encore au stade évolutif, non de leurs grands-parents, non de leurs ancêtres, mais à celui des ancêtres de leur race elle-même? Ne sont-ils pas là de vrais vieillards? Que sert alors de prolonger l'existence? Non de mort en sursis, mais de représentants d'une race préhumaine qui n'en finit pas de s'éteindre. Quelques réserves ne seraient-elles pas suffisantes à en conserver l'échantillonnage? Le vieillissement est un sujet qui moi-même me passionne. Mais le sujet d'étude qui devrait avoir la priorité des priorités, n'est-ce pas celui de la naissance de l'homme à son humanité? Quelqu'un a dit déjà, il y a environ 2000 ans, que nous ne pouvions y parvenir si nous n'étions pas comme des enfants. Des enfants. C'est-à-dire cette page vierge sur laquelle ne sont pas encore inscrits à l'encre indélébile les graffitis exprimant l'ensemble des préjugés sociaux et des lieux communs d'une époque.
Laborie est né en 1914 en Indochine. Il meurt en 1995 à 80 ans. À 12 ans, il contacte la tuberculose, ce qui ne l'empêche pas de passer son baccalauréat d'humanité à Paris. Puis ensuite, il fait des études scientifiques, devient médecin, chirurgien. Encore une fois, il est incontestablement l'un des plus grands savants du XXe siècle. Rappelons quelques repères de sa vie, de son œuvre. Il met au point la technique d'hibernation artificielle qui va révolutionner la chirurgie. Il introduit le premier neuroleptique au monde. Son œuvre, en particulier la nouvelle grille sociale, Éloge de la fuite, le fameux film Mon oncle d'Amérique réalisé avec Alain Resnais, ou encore un livre moins connu mais que je trouve tout à fait passionnant, L'homme imaginant. Voilà quelques traces parmi tant d'Henri Laborie. J'ai connu cet homme, j'ai eu l'occasion de discuter avec lui. Cette voix que vous avez entendue ce soir, grâce aux nouvelles technologies qui nous permet à travers le temps de conserver les voix, cette voix, je crois, nous en dit long. Mais n'oubliez pas qu'Henri Laborie, c'est une voix VOX, c'est aussi une voix VOIE. N'oubliez pas tout ce qu'il a écrit sur le cerveau, tout ce qu'il a écrit sur nos comportements, sur ces textes que... Des extraits très courts, trop courts hélas, mais qui vous disent la richesse de la pensée d'Henri Laborie, texte lu par Anna à l'instant. Une petite anecdote pour finir. Henri Laborie était un homme curieux et anticonformiste. Il dérangeait, bien sûr. Il aurait dû avoir le prix Nobel de la médecine. Pourquoi ne l'a-t-il pas eu? Parce que certains de ses collègues étaient jaloux. Et il faut savoir... que des médecins français sont allés spécialement voir les auteurs du prix Nobel pour leur dire surtout ne leur donnez pas ce prix Nobel. C'est ainsi que Henri Laborie a eu le prix Albert Lacker pour la recherche médicale, équivalent américain à notre prix Nobel, mais qu'il n'a pas eu le prix Nobel. Souvenez-vous, ces livres sont maintenant en livre de poche, sont faciles à lire, et sont d'une très très grande actualité. Je crois que son message fait que ce savant, ce chercheur du XXe siècle est indispensable pour affronter le XXIe. Accueillons la deuxième voix, VOX et VOIE, François Chêne.
Je vais évoquer d'abord un fait émouvant. En 1926, une semaine avant sa mort, Rilke a tenu à répondre à l'envoi d'un jeune poète, Jules Supervielle, qui était un parfait inconnu à l'époque. Et d'une main tremblante, Rilke a tracé ces mots. « Me voici un vase brisé dont les débris vont réintégrer la terre. Mais n'oubliez pas, cher poète, que en dépit de tout, la vie est une gloire. » Rilke a dit « en dépit de tout ».
C'est le plus important pour vous, « en dépit de tout ».
Oui, voilà. « En dépit de tout » parce que dans les conditions tragiques de notre existence, vivre consiste surtout à se défendre contre le mal sous toutes ses formes. Et pourtant, en son essence, l'avènement de l'univers et de la vie, cette aventure unique, mérite le titre de gloire. Parce que c'est un triomphe du tout sur le rien. Je dis bien le tout.
Qu'est-ce que c'est le tout pour
vous ? Le tout, voilà. Je ne sais pas quoi, mais je sais que ce tout qui est là, qui nous est donné, provient d'une donation totale. Quelle que soit notre conviction, l'avènement de l'univers est une donation totale. Donc, tout est dans tout et tout rejoint tout. Toute la splendeur de l'aube, toute la splendeur du soir, tout le ciel étoilé et tous les hauts champs de l'âme humaine jaillit de la vallée de larmes. Et puis, dans mon coin, mon œil et mon oreille qui ont capté tout cela. Et ce soir même, vous m'écoutez. Tout cela forme un ici et maintenant au sein du courant éternel.
Vie, temps, mort est un tout indissociable. On ne peut échapper à ces trois entités concomitantes et complices qui déterminent tout phénomène vivant. Car si le temps nous paraît un terrible dévoreur de vie, il en est en même temps le grand fournisseur. Sans devenir, il n'y aurait pas de vie. La vie n'est vie qu'en devenant. Dès lors, nous comprenons l'importance du temps. C'est dans le temps que cela se déroule. Or, le temps, c'est précisément l'existence de la mort qui nous l'a conférée. Noble amitié, noble amour. Heureux ceux qui connaissent les deux dans le même temps. Si l'amour enseigne le don total et le total désir d'adoration, l'amitié, elle, initie au dialogue à cœur ouvert dans l'infini respect et à l'infini attachement dans la non-possession. Les deux, vraie amitié et vrai amour, s'épaulent, s'éclairent, se haussent, ennoblissant les êtres aimants dans une commune élévation. L'esprit se meut, l'âme s'émeut. L'esprit résonne et l'âme résonne. Confucius, qui, en son temps, c'est-à-dire 5 siècles avant notre ère, se lamentait justement de ce que la vertu, mal comprise, souvent ennuie. Et il s'écria : Que n'ai-je le pouvoir de rendre le désir de vertu aussi attrayant, aussi excitant que le désir charnel ? La France, à mes yeux, est bien ce pays du milieu de l'Europe occidentale, ouvert à tous les Orients. Tel un immense arbre, à partir des souches originelles, elle a reçu apports et influences venues de tous côtés, constituant des contradictions ou des complémentarités.
François Chen est né en Chine en 1929. Il a donc 88 ans. En 1948, il accompagne son père à l'UNESCO pour la fondation de l'UNESCO. C'est ainsi qu'il arrive en France. Il se consacre à l'étude de la langue et de la littérature française. Et en 1971, il est naturalisé français. En 2002, il accède à l'Académie française au fauteuil de Jacques de Bourbon-Busset. Son œuvre est immense, variée, passionnante. Je pense à, parmi ses derniers livres à 5 méditations sur la mort, ou encore L'éternité n'est pas trop, et encore à son dernier livre De l'âme. Qui, dans le paysage littéraire français, pouvait parler de l'âme sinon François Chen, venu de la Chine? Ce subtil poète, qui est donc arrivé, comme je vous le disais, à 20 ans à Paris pour échapper à la guerre civile chinoise, en parlant seulement quelques mots de français, qui a donc été naturalisé, comme je vous l'ai dit à l'instant, en 1971, nous laisse, continue de nous offrir une œuvre absolument extraordinaire. Vous avez bien entendu tout à l'heure, parmi ces brefs extraits que Paola nous donnait, ce petit mot, l'esprit ne fait que raisonner, R-A-I-S-O-2-N-E-R, quand l'âme raisonne, R-E-S-O-2-N-E. Elle ne connaît ni limite ni déficience et porte la valeur unique d'un être. Livre passionnant, accessible à tous, qui, encore une fois, nous intéresse beaucoup, car ce monde semble avoir oublié l'âme, valorisant avant tout l'esprit et le corps. Et François Chen nous rappelle qu'il y a aussi peut-être une autre dimension. Je vous encourage beaucoup à découvrir François Chen. Je pense que c'est une voie VOIX et aussi une voie VOIE pour le 21e siècle. Ce 21e siècle dans lequel François Chen est encore parmi nous. Et j'espère qu'il nous donnera encore beaucoup de livres fondamentaux, rares, singuliers, que l'on trouve rarement dans toutes les publications qui sortent en permanence. Alors, chers auditeurs, je vous donne rendez-vous dans un instant après les informations pour accueillir notre troisième voix. Après Henri Laborie, après François Chen, nous allons accueillir dans cette deuxième partie Azouk Begag, un chercheur qui se cherche en cherchant, un homme aux origines multiples, un être passionnant que nous allons entendre dans un instant. Il est né à Lyon en 1957 de parents venus d'Algérie, modeste, et quand il a 6 ans, il rêve de devenir professeur. Il veut être comédien ou encore président comme Nasser. Mais son père lui répète toujours « Moi, je travaille à l'usine, ton unique devoir, c'est d'apprendre à l'école. Tu dois être le meilleur des meilleurs. » Et à l'école, il connaît le racisme. Il sait, il découvre que les Arabes doivent travailler plus que les autres enfants s'il veut être apprécié. Comme ses parents parlent très peu français, ils ne savent pas que leurs enfants sont discriminés. Voilà le début de la vie de Azoug, qui écrit beaucoup en particulier, mais qui aussi a eu un parcours absolument atypique. Chercheur, donc docteur universitaire, dans le monde intellectuel, dans le monde politique, il a été ministre, délégué à la promotion de l'égalité des chances, il a été à l'étranger, dans des ambassades, il nous en parlera peut-être lui-même, et il vient d'écrire un dernier livre, parmi tous les livres qu'il a écrits dont il va nous parler, La voix de son maître. Alors, Azoug, bonjour.
Bonsoir.
Et merci beaucoup d'accepter cet entretien à distance. Je crois que vous êtes à Lyon ce soir.
Ouais, à 500 kilomètres de chez vous.
C'est très gentil. Alors écoutez, Azoug, pour vous permettre de répondre calmement, je vais vous laisser environ 15 minutes et je vais vous indiquer quelques pistes sur lesquelles on aimerait avoir votre contribution comme voix VOX et voix VOIE. Votre parcours, votre recherche incessante, car elle est incessante, votre dernier livre, La voix de son maître, qui s'y inscrit, et puis peut-être votre vision du monde et de la vie en ce début du troisième millénaire. Nous vous écoutons.
Je suis content d'être un être qui se cherche, parce que toute ma philosophie de vie, finalement, est basée sur l'incertitude. Je suis un être incertain. Je suis quelqu'un qui, depuis le début, cherche à donner un sens à sa vie. c'est-à-dire à trouver des éléments qui feront en sorte que dans un siècle ou deux, peut-être lorsque je ne serai plus là, je laisserai quelque chose sur cette terre à mes enfants, à tous les enfants de France, et peut-être à tous les enfants du monde aussi. Quelque chose qui aura du sens, c'est-à-dire qui contribuera positivement à consolider l'idée de fraternité entre les êtres humains. L'idée d'Érasme, en fait, construite sur le thème de l'humanisme. Je suis un être qui se cherche parce que je suis sûr que c'est dangereux d'avoir des certitudes et de défendre coûte que coûte les certitudes au détriment de l'écoute des autres. Tiens, au moment où je vous parle, d'ailleurs, je pense à Galilée. Galilée qui, en son temps, avait compris grâce aux mathématiques que hélas, pour ceux qui pensaient le contraire, c'était la Terre qui tournait autour du Soleil et non pas le Soleil qui tournait autour de la Terre. Et je le revois, ce pauvre Galilée, en prison, tenant les barreaux en fer de sa prison et dire « Et pourtant, elle tourne !» Voilà, il laissait le temps à ses idées de faire leur chemin et de s'inscrire dans la science des hommes. Je suis un peu comme ça, moi. Je pense que les philosophes du doute, comme moi, sont des gens qui sont tolérants, ouverts à la compréhension des arguments des autres et favorisent une société où la tolérance est plus grande que la guerre. Voilà. J'ai eu la chance de pouvoir voir la lumière grâce à des parents qui vivaient dans l'obscurité. Puisque mes parents, à Lyon, où ils sont arrivés en 1947, n'ont jamais appris à lire et à écrire. Ils ne parlaient même pas français. Donc j'ai dû, tout seul, avec mes frères et sœurs, trouver les moyens d'accéder au monde de la lumière, c'est-à-dire la connaissance, l'écoute, le travail sur soi, l'abnégation, l'effort qu'on doit faire soi-même pour aller chercher la vérité ou les vérités là où se trouvent. Je me rends compte que je suis devenu un coureur de fond de la vie, puisque j'ai pris goût à l'effort, j'ai pris goût à la recherche, j'ai pris goût au questionnement, grâce à des parents qui n'avaient pas eu accès à ce goût, finalement. Voilà, je suis parti d'un bidonville à Lyon, de bidonville comme vous imaginez encore qu'il pouvait exister dans les années 60, parce que les Roms, aujourd'hui, nous offrent l'image de ces mêmes bidonvilles des années 60, mais reconstituées. C'est exactement la même chose. Ces baraques de tôle, de bois, où il n'y a pas d'eau, pas d'électricité, pas de télévision, pas de téléphone, rien du tout. Sinon, l'espoir, un jour, de pouvoir y arriver, de faire son trou dans la société française. Des années 60 aux années 2000, ouais, je suis passé de ce bidonville à Matignon. Et tout cela, au cours des années, m'avait invité à réfléchir sur pourquoi moi m'en étais-je sorti dans ce bidonville où il y avait 200 enfants. Et pourquoi sur les 200 enfants qui habitaient ce bidonville, j'ai été le seul à pouvoir trouver le chemin de la lumière, de l'université et de l'accomplissement de moi. De moi-même, de ma personne. C'est comme ça que j'ai commencé à écrire. Non pas pour faire l'apologie du génie que j'aurais pu être, mais surtout pour poser une question sur les barrières qui s'opposent à tous les enfants de pauvres, tous les enfants qui n'ont pas confiance en eux. Parce que dès leur naissance, dès leur plus jeune âge, la société les condamne à être des enfants de pauvres et à rester dans les cases qui ont été bâties pour eux par la société. Les enfants de pauvres doivent rester pauvres. C'est comme ça qu'on voudrait installer un déterminisme social qui fait que les choses ne bougent pas et que les riches restent les riches et que les pauvres restent les pauvres. Un déterminisme social qui fait que les prisons sont pleines de pauvres et rarement pleine de riches. Le cas du fils de Balkany, aujourd'hui, qui vient de passer seulement 48 heures en prison, est éclairant à ce sujet. Finalement, pour tenter de venger un petit peu l'analphabétisme dans lequel mes parents ont vécu toute leur vie, je suis devenu un écrivain. Un écrivain qui réfléchit, qui regarde, qui écoute et qui écrit des livres qui, je l'espère, ne vont jamais mourir, qui vont rester vivants pour l'éternité. C'est ce que j'explique aux enfants quand je vais les voir dans les classes, aux enfants d'école primaire ou ceux de collège. Je leur dis, voyez, tout, l'homme qui est en face de vous est un écrivain immortel. Parce que dans 50 ans, 100 ans, 150 ans, quand vous reviendrez dans le collège où nous faisons notre petite rencontre aujourd'hui, quand vous reviendrez dans la bibliothèque municipale où vous avez entendu parler cet écrivain, les livres qu'il a écrits seront toujours là. Sa pensée est toujours là aussi. Et donc son existence sur Terre n'aura pas été éphémère, mais elle aura été fertile. Puisque peut-être les livres qu'il aura écrits auront donné à d'autres l'idée d'en écrire eux aussi. Et peut-être tous ces livres auront constitué pour tous les enfants d'analphabètes, les enfants de pauvres, un modèle qu'il faut suivre et dépasser. C'est comme ça que j'en viens à l'idée de mémoire. Tous les enfants de pauvres que nous sommes sont des enfants qui, d'abord, ont un peu honte de grandir dans la pauvreté avec des parents qui sont pauvres. Et à cela, à chaque fois que je les rencontre, je leur dis qu'il n'y a aucune honte à avoir des parents pauvres, d'être d'un milieu pauvre. Parce que généralement, c'est dans ces milieux pauvres où il y a encore des valeurs humaines. Celles du partage, de la solidarité, de l'amour, de la rencontre, toujours possible, de la tolérance, toujours palpable. Mais surtout, lire et aller dans les bibliothèques et prendre connaissance avec son passé, c'est-à-dire, en ce qui me concerne, avec la mémoire de tous nos vieux qui sont venus ici donner leur force de travail à l'industrie française et qui en sont morts, souvent dans le BTP, qui sont morts par accident, puisque le secteur du bâtiment de travaux publics, c'est là où il y a le plus d'accidents chez les ouvriers. Parfois, ils sont morts aussi souvent de tuberculose, de toutes ces maladies qui ont affecté ces pauvres migrants qui arrivaient dans les années 60, rêvaient de gagner beaucoup d'argent, d'aller le déposer à la caisse d'épargne, et retourner dans leur pays brodé d'or et cousu d'argent au volant d'une Mercedes, d'une BMW ou d'une voiture Peugeot, et qui sont finalement morts en France, près des usines, dans les immeubles HLM où ils avaient passé leur vie, où leurs enfants sont nés. Tous ces migrants-là qui, comme Ulysse, rêvaient de retourner à Ithac, finir leur vieux jour, et finalement ont construit leur maison, celle du retour, et n'y sont jamais retournés. Quand je pense à ces maisons du retour, je pense à celles construites par les Italiens, dans le sud de l'Italie, en Calabre. Je pense à celles construites par les Espagnols. Je pense à celles construites par les Portugais, qui sont venus de la région de Porto dans les années 60-70, et qui, finalement, ces maisons du retour, qui sont symboliques de ces millions de travailleurs migrants qui sont arrivés en France dans l'après-guerre, sont des maisons qui ont porté l'espoir d'un retour, mais en fait, qui ont contribué à faire en sorte que tous ces enfants et ces millions d'enfants de migrants nés en France sont restés en France et sont devenus français. Voilà. J'écris la voix de son maître pour raconter que on peut faire le tour du monde, on peut aller voir tous les pays du monde, toutes les belles îles du monde, avec les plus beaux sables blancs que peuvent porter des paradis terrestres. Finalement, si on n'a pas une terre d'ancrage, si on n'a pas un Ithac, si on n'a pas les siens, une famille, des gens qui nous attendent quelque part, une adresse, des odeurs d'enfance qu'on a créées à l'âge de 7 ans, 8 ans, 9 ans, l'odeur de la gomme dans un cartable, l'odeur du cuir de ce cartable, l'odeur des cahiers qu'il y a dans ce cartable, eh bien, on devient un être qui a perdu le sens de la vie, parce qu'il n'y a rien de tel que de partir à l'étranger pour savoir d'où on est. Il n'y a rien de tel que d'être vu dans un monde différent, comme un étranger, pour savoir ce que représente être de quelque part, habiter quelque part, venir de quelque part. Je dis cela parce que La voix de son maître, finalement, c'est un livre sur la mémoire. Et que quand je vois aujourd'hui en France, en 2017, ces millions d'enfants de travailleurs migrants, les Maghrébins en particulier, qui n'ont plus de mémoire, qui n'ont plus le temps d'avoir de la mémoire, parce que souvent, politiquement, ils en ont été privés, vous voyez. Dans les années 80, quand il y a eu à Lyon, d'où je vous parle ce soir, la fameuse marche pour l'égalité et contre le racisme qui a constitué la première pierre de la construction d'une mémoire collective pour les millions d'enfants de Maghrébins qui sont nés dans ce pays, eh bien la politique et les politiciens ont siphonné cette mémoire et finalement elle n'a pas eu la chance de se voir élaborée. Mon petit livre, avec une trame littéraire, a cette ambition de vouloir construire la mémoire, une mémoire, la mémoire de ce qu'on aime, la mémoire des lieux qu'on aime, et finalement la philosophie qui se trouve au cœur de ce livre, c'est celle d'un ancien personnage très important des relations entre la France et l'Algérie qui s'appelle l'émir Abdelkader, né en 1808 à Oran, en Algérie, et qui a été l'un des personnages les plus importants de la guerre coloniale que les Français ont menée en Algérie à partir de 1830. Cet émir Abdelkader, évidemment, qui savait lire et écrire à l'âge de 6 ans, parce qu'il était d'une descendance des prophètes, c'était un individu qui, extrêmement érudit, qui faisait la guerre tous les jours contre les Français avec sa smala. Les Français connaissent encore ce mot, la smala d'Abdelkader, qui n'était non pas une grande famille, mais c'était 60 000 soldats avec leurs chameaux, leurs moutons, leur approvisionnement en eau pour boire, qui pouvaient plier et remonter leur camp en une journée pour combattre les armées françaises. Cette smala d'Abdelkader, qui aujourd'hui est complètement disparue de l'histoire de France qu'on enseigne aux enfants aujourd'hui. Eh bien, cet homme, le grand émir Abdelkader, disait cette phrase qui m'a vraiment beaucoup marqué lorsque je travaillais sur lui il y a quelques années. « Tous les chemins sont circulaires et ne mènent finalement qu'à soi-même. » Elle est très belle et ô combien significative. Tous les chemins sont circulaires et ne mènent finalement qu'à soi-même. Cela veut dire, dans ce chemin circulaire qui ramène toujours à soi-même, que la mémoire est un ingrédient essentiel pour donner du sens à la vie, pour ne jamais se rappeler que où qu'on aille, aussi loin que ce soit, on revient toujours au point de départ. C'est-à-dire, si pendant toute une existence, on a semé autour de soi du bien, on récoltera ce bien à la fin, quand le cercle sera fermé, quand la boucle sera bouclée. Et quand on sème le mal, eh bien, on se retrouvera à la fin du cycle, soi-même, devant le mal qu'on aura semé et devant les divisions entre les hommes qu'on aura créées pour favoriser les guerres.
Merci beaucoup.
J'ai une grande chance finalement.
Je vais être obligé de mettre un petit terme. Nous vous écouterions pendant des heures entières parce que vous êtes passionnant. Je recommande votre dernier livre, La voix de son maître, où avec humour et tendresse, justement, vous nous entraînez dans les déboires de cette recherche de quelqu'un qui se cherche et qui ne se trouve qu'une fois chez lui. Et ce que vous venez de dire est une très très belle introduction à votre livre. Merci beaucoup, Azoug, et je crois qu'un jour je vous inviterai dans une émission spéciale de Chemascopie sur le modèle de Jacques Chancel. Mais si vous voulez bien, je crois, vous avez demandé d'écouter une chanson, vous nous rappelez laquelle, et nous allons l'écouter. Alors, ces femmes, je vous aime.
Oui.
Voilà. Alors,
parce que sans nos mères, sans nos sœurs,
voilà.
On ne peut jamais accomplir ce chemin circulaire.
Merci beaucoup, Azoug, et nous terminons par cette chanson absolument merveilleuse. Merci et à très bientôt.
Merci.
Quelquefois, si doux. La vie.
Je vous donne rendez-vous au mois de mars. Nous aurons 3 émissions de suite sur Décadence et Renaissance, ce que nous allons appeler désormais les triades. 3 émissions de mars, 24 mars, 29 mars, 31 mars. Et n'oubliez pas le site sur lequel dès dimanche vous aurez cette émission et tous les commentaires et toutes les références. www.art-au-pluriel-culture-au-pluriel-education-singulier.com/. Belle soirée, chers auditeurs.
Blessure.